Bonjour à tous.
Bonjour.
Toujours avec un. Je considère ça comme étant un grand privilège de pouvoir amener ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Là. Alors, Luc 9, 23. Il y en a qui veulent. Ça me fait toujours de quoi quand je vois Annie puis Capital. Ça me rappelle mes premiers pas dans la vie chrétienne, alors que son père, il venait avec une nouveauté à Haute-Rive. En ce temps-là, là, c'est que ça en est passé, c'est qu'il y a des choses. OK, alors Luc 9, 23. C'est écrit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. Si quelqu'un veut venir après moi, autrement dit, si quelqu'un veut être mon disciple, là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, ou si quelqu'un veut suivre la doctrine du Maître. Alors, si quelqu'un veut faire ça, est-ce que ça coûte quelque chose? C'est sur ça que je voudrais qu'on réfléchisse là, ce matin. Il y en a un qui dit ça coûte tout. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, ce que le Seigneur veut faire comprendre a été souligné autant par Matthieu comme Marc puis Luc. Les trois ont écrit exactement la même phrase, celle que je vous ai lue tantôt. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge, il y a juste Luc qui a rajouté « chaque jour ». Alors, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, je vous repose la même question. Est-ce que ça coûte quelque chose entrer dans le royaume de Dieu? Et là, répondez pas trop vite. Là. Parce que là, vous allez dire, mais il y a une différence peut-être entre entrer et être disciple et tout ça. Là. L'entrée pour le ciel, c'est gratuit ou c'est payant?
C'est gratuit.
On va réfléchir sur ça. C'est gratuit, mais ça a coûté cher. OK, c'est juste ça que je veux qu'on fasse là, ce matin, qu'on réfléchisse. Alors, c'est pas une question piège que je suis en train de vous poser. Au même titre que quand on lit dans Luc 14, celui qui veut bâtir une tour. Celui qui veut bâtir une tour, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Je vais vous lire ce qui est écrit. Luc 14, 28. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Alors ici, Jésus y encourage à évaluer sérieusement le prix de l'engagement. C'est là où on peut commencer peut-être à me parler entre c'est gratuit ou ça coûte de quoi. Alors c'est évident qu'il y a une distinction nette à faire entre entrer au ciel, et ce que le Seigneur explique concernant être un disciple pour le suivre. Il y a une différence entre les deux, mais les deux mènent à la même place quand même. Alors, dans Matthieu 13, ce qu'on va lire là ce matin, on a deux paraboles qui expliquent la nécessité d'évaluer le coût de l'entrée dans le royaume de Dieu. Maintenant, avant d'aller plus loin, c'est quoi le royaume? C'est un thème qui revient souvent dans les paraboles que de Jésus. Jésus, il a souvent parlé à mes royaumes. Le royaume, ça décrit le domaine où Christ règne en roi des rois et en seigneur des seigneurs. Il n'y a personne de plus haut que lui dans son royaume. C'est là où sa seigneurie se manifeste pleinement. Puis tous ceux qui se sont soumis à la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ sont ceux qui peuvent entrer dans son royaume. L'expression « le royaume de Dieu » ou « le royaume des cieux », c'est des synonymes qui veulent dire la même chose. Les évangélistes Marc et Luc qui ont utilisé la même formule, c'est-à-dire eux parlent de « royaume de Dieu ». Matthieu, lui, parlait de « royaume des cieux ». Pourquoi que Matthieu ne prenait pas la même expression que Marc et Luc? C'est parce que Matthieu, il s'adresse à des lecteurs juifs. Puis, on sait, les juifs sont extrêmement prudents sur l'utilisation du nom de Dieu. Puis, comme Matthieu ne voulait pas scandaliser ses auditeurs, ceux qui allaient entendre, ben, il s'est contenté du thème de royaume des cieux. Maintenant, le titre du message que je vous donne, gratuit ou payant, je suis conscient que ça peut prêter à confusion. Mais on va examiner ensemble deux paraboles qui vont nous aider, à, comme je l'ai dit tantôt, à bien évaluer le coût de l'entrée dans le royaume. D'abord, et c'est la première chose qu'il faut dire et souligner, toute l'Écriture est claire, catégorique et précise sur ce sujet-là. Il n'y a personne qui peut acheter son billet d'entrée pour le ciel. Là, j'espère que ceux-là qui avaient des craintes tantôt, là, de quoi qu'il va nous parler, lui-là, là, personne ne peut acheter son billet d'entrée pour le ciel. Et je souligne, personne. En 2026, Elon Musk est considéré comme étant la personne la plus riche au monde, avec une rondelette fortune estimée à 676,839 milliards de dollars. Et même lui ne peut pas payer son entrée pour entrer dans le ciel. Même lui. Selon les Écritures, même les gens riches sont désavantagés. On lit dans Matthieu 19, 24, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Autrement dit, quand il dit « c'est plus facile », ça veut juste dire « c'est impossible ». L'amour de l'argent, dans 1 Timothée 6, 10, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Là, je ne suis pas en train de vous dire que l'argent, c'est pas bon, c'est poison, c'est péché. Mais l'amour de l'argent, c'est ça qui génère la racine de tous les maux. Marc 10, 24, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui se confient dans leur richesse, il n'y a rien à faire pour entrer que dans le ciel avec ça. Il y en a d'autres qui vont s'appuyer sur autre chose, comme leur propre justice, leur religion, leur moralité, leur éducation, leur bénévolat. Il y en a d'autres, c'est leur souci de la planète. Puis mettez-en. Mais on sait très bien, il n'y a rien qu'on peut faire pour entrer au ciel de nos propres forces. Les véritables citoyens du ciel, ils ont toutes une caractéristique en commun, toute la gang. Dans Matthieu 5, 3, on lit qu'ils sont pauvres en esprit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tatas, ceux-là. Là. C'est ignorant ou bien pas fin. Ils sont juste pauvres en esprit. Ils ont reconnu leur pauvreté spirituelle et ils n'ont rien à donner à l'agneau de Dieu parfait. Qui, ce qu'on lit dans 2 Corinthiens 5, 21, est devenu péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, Christ a effectivement payé le droit d'entrer dans son royaume pour tous ceux qui croient en son nom. Tout simple que ça. Entrer au ciel, c'est pas payant. C'est trop cher. Il n'y a personne qui peut payer son entrée au ciel. Mais Christ, lui, a payé la totalité du prix. Hébreux 10, 14 nous dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, ceux qui rentrent dans le royaume y entrent gratuitement. Je voulais tourner dans Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, 1, on lit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas l'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alors, entrer au ciel, ça ne coûte rien. Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres. Pourquoi? Parce que si ce serait par les œuvres, il y a toujours quelqu'un qui s'en glorifierait. Alors, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. L'entrée au ciel, gratuit. Mais il y a une chose importante qu'il faut prendre en considération. La véritable foi n'oublie jamais d'apprécier le vrai prix du salut. C'est la raison pourquoi dimanche après dimanche après dimanche après dimanche, on prend toujours un 10-15 minutes pour adorer celui qui nous a ouvert les portes pour le ciel. On le remercie de nous avoir donné le privilège de pouvoir entrer au ciel et ce, sans avoir fait absolument rien. Sans avoir payé absolument rien pour la simple et bonne raison que ça coûtait trop cher. Il n'y a personne qui pouvait se payer ça. Alors, dans les deux paraboles qu'on va voir, Jésus encourage les gens à calculer le prix d'entrée dans le royaume. Il exhorte à considérer, c'est-à-dire à réfléchir, à peser la valeur de ce que ça va coûter. Tournez dans Matthieu 11. Matthieu chapitre 11, verset 12. Jésus, un jour, a dit ces paroles-là. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, le royaume de Dieu est forcé. Ça veut dire que le royaume avance malgré l'opposition qu'on tente de lui mettre. Tous les chrétiens nés de nouveau, vous avez tous passé par les mêmes expériences. On vous a ridiculisé peut-être. Dans votre famille, on a dit que vous étiez rendu fou. Ma sœur, elle a déjà même pensé ça au tout début, quand je lui disais, Claudine, j'ai dit ça, le Seigneur, il va revenir et il va nous prendre dans le ciel avec lui. Elle pensait que, puis moi, c'est pas à cause que j'avais pris ben de la dope avant, là, mais elle pensait que ça avait eu un certain effet. Il est rendu fou, mon frère. Alors, c'est mal compris, c'est mal perçu. C'est clair, là. Alors, malgré l'opposition, seuls ceux qui ne cèdent pas, qui ne lâchent pas, qui n'abandonnent pas, qui se frayent un chemin jusqu'au ciel pour y entrer. Jésus a toujours mis de l'avant la difficulté d'entrer dans le royaume. Vous vous rappelez ce qu'il a dit quand il m'a parlé des portes? Matthieu 7, verset 13. Jésus lui a dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Ça, c'est le chemin facile. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Quand c'est difficile, il y en a une gang qui lâche. Il n'y en a pas beaucoup qui trouvent le chemin. Mais quand c'est large, tout le monde passe par là. Alors, si vous voulez, on va commencer à lire nos deux paraboles dans Matthieu 13. Matthieu 13, verset 44. C'est écrit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Alors, il s'est passé au-dessus de 2000 ans depuis que Jésus a raconté cette parabole-là. En ce temps-là, ce n'était pas rare de cacher un trésor dans un champ. Mais aujourd'hui, on est en 2026. Connaissez-vous bien des gens qui vont cacher leurs avoirs dans des champs, qui creusent des trous, puis qui mettent ça, là, puis qui renterrent? On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a des banques. On peut investir dans des actions ou des obligations, dans l'immobilier ou dans un paquet d'autres choses. Les objets précieux qu'on a, on peut les mettre dans des coffres-forts ou des coffrets de sûreté, ce qui fait en sorte que ce qu'on a, c'est en sécurité. Mais dans le temps de Jésus, c'était pas comme ça. Si tu avais un gros avoir, un trésor, bien souvent c'est ça que tu faisais. Tu faisais un trou, tu le cachais dans la terre, tu l'enterrais. Puis tu t'organisais pour te rappeler où c'est que tu l'avais enterré. En temps de guerre, dans les premiers siècles, il y avait plusieurs pays qui vivaient des conflits armés ou des soulèvements politiques, ce qui faisait que enterrer des richesses, c'était un bon moyen pour protéger ses biens. C'était peut-être même le seul. Joseph Flavius, un historien juif, a écrit ce qui s'est passé après la destruction de Jérusalem par le Romain Titus Vespasien en 70 après Jésus-Christ. Il a écrit ceci. On trouva dans les ruines de la ville, c'est-à-dire dans la ville de Jérusalem, une quantité appréciable de richesses. Les Romains en déterrèrent une partie, mais ce sont les prisonniers qui découvrirent la plus grande partie des trésors et qui les emportèrent. Je parle de l'or, de l'argent et du restant des objets précieux que les Juifs possédaient et que leurs propriétaires avaient cachés dans la terre en prévision des aléas de la guerre. Alors, c'était une façon de procéder, on enterrait. Maintenant, dans notre parabole qu'on vient de lire, on peut se questionner à savoir si notre homme qui a découvert le trésor, il a agi selon la morale. Est-ce qu'il a bien agi, ce monsieur-là? Dans le sens qu'il découvre un trésor qui n'est pas à lui, il l'enterre à nouveau sans rien dire au propriétaire du champ. C'est-tu correct, ça? C'est-tu la bonne façon de me procéder? Est-ce qu'il n'aurait pas dû informer le propriétaire de sa découverte? Mais la loi rabbinique était très claire dans un cas comme ça. Si quelqu'un trouvait dehors, même si c'était juste devant le seuil de la maison, un objet de valeur dont il ne connaissait pas le propriétaire n'avait aucun droit dessus. Alors, le trésor trouvé dans le champ n'appartenait visiblement pas au propriétaire du champ, sinon, il l'aurait déterré avant de le vendre, non? C'était brillant pour deux scènes, là. Tu vas déterrer le trésor, tu sais, tu l'as mis là, tu vas le déterrer, tu vendras le champ après. Mais le fait qu'il n'était pas au courant, ça indique qu'il n'y avait aucun droit sur le trésor. Alors, selon la loi juive, le trésor appartient à celui qui l'a découvert. C'est ça que notre histoire ça, qui nous parle ici. Alors, la leçon ici, un homme trouve un objet de si grande valeur, qui vend tout ce qu'il possède pour acquérir ce précieux objet. Il renonce à tout ce qu'il possède pour obtenir le trésor. Jusqu'à date, ce n'est pas trop compliqué à me comprendre. Le monsieur, il a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Il va s'organiser pour que ça lui revienne. Maintenant, on continue à lire l'autre parabole, Matthieu 13, verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors, cette deuxième parabole-là nous enseigne exactement la même chose que la première. Ici, notre homme est un marchand qui se promène de pays en pays dans les marchés ou les ports de pêche, les foires commerciales, pour trouver des perles de grande qualité qu'il va acheter pour revendre. Aujourd'hui, les antiquaires font la même chose. Ils vont courroyer dans les campagnes, comme un petit peu eux autres, ils font, là. Ils courroyent dans les campagnes. Ils vont fouiller dans les granges, là. C'est que je ne dis pas que c'est ça qu'ils font, là. Mais ils vont fouiller dans les granges ou les greniers pour dénicher une pièce rare. Puis je serais curieux de savoir que dans plusieurs maisons ici, dans les vieilles maisons de campagne, là, dans les greniers, ou dans les granges, on pourrait tomber sur des affaires assez exceptionnelles qui vaudraient de l'argent, finalement. Alors, dans les deux paraboles, on a un homme qui trouve un trésor, puis dans l'autre, un marchand qui cherche de belles perles. Le premier vend tout ce qu'il a pour acheter le champ, puis le deuxième fait la même chose, il vend tout pour s'offrir une belle perle. Alors, ce qu'ils ont trouvé est tellement précieux, tellement précieux qu'ils sont prêts à tout abandonner. Tout ce qu'ils ont, ils sont prêts à l'abandonner pour acquérir ce qu'ils viennent de me trouver. C'est la découverte de leur vie. Faites le parallèle avec la découverte pour le ciel. Quand vous avez découvert ce que Jésus avait fait pour vous, comment avez-vous réagi? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, dans mon cas, moi, c'était dans une nuit, j'étais dans une chambre que je restais chez Rosaire, sa rue que Bélanger à Haute-Rive. La nuit que je me suis converti, j'ai compris que Jésus-Christ avait donné sa vie pour moi. Ma première réaction, ça a été, la moindre des choses que je peux faire, c'est de refaire la même affaire, te donner la mienne. Te donner ta vie, je vais te donner la mienne. Il n'y avait plus rien qui avait autant de valeur que ce que je venais de découvrir. Rien. J'étais même prêt à être ridiculisé, quoique je ne l'ai pas été bien, par exemple. Mais quand même, j'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout. Je me souviens, je travaillais dans un hôpital, il y avait un curé, il y avait une couple de curés qui passaient d'étage en étage, puis moi, je faisais du ménage. Je passais à mop. Alors, lorsque je l'avais autour d'un lit, en dessous du lit, souvent, il y avait le curé qui était là, qui parlait avec les gens. Là, j'écoutais-tu ce qu'il disait, ouais. Mais il ne disait rien. Il ne disait rien parce qu'il n'y avait rien à dire. Puis, j'avais assez de face pour les confronter. Je lui disais, mais c'est quoi vous lui dites pour les encourager quand vous savez qu'ils vont mourir? Et là, je voyais bien que ces messieurs-là étaient démunis. Alors moi, je lui prêchais l'Évangile. Peu importe ce qu'il va dire, peu importe ce qu'il va faire, j'avais découvert quelque chose qui avait un prix inestimable. Alors, les deux paraboles présentent le vrai salut comme étant caché pour la plupart des gens, mais tellement précieux pour ceux qui l'ont découvert, qui sont prêts à se départir de tout ce qu'ils ont. Regardez ce que Jésus a dit à ceux qui voulaient vraiment le suivre dans Luc 14, 26. Dans Luc 14, 26, le Seigneur Jésus-Christ il dit, « Si quelqu'un vient à moi, » et regardez bien les trois prochains mots qui s'en viennent, sans me préférer. Alors, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, les trois mots « sans me préférer », littéralement, ça veut dire « et ne hait pas », c'est-à-dire « haïr », et ne hait pas. Donc, si je relis, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, évidemment, la haine ici dont il est question, c'est en réalité un amour moins intense ou moins passionné. J'aime tellement le Seigneur Jésus-Christ que tout ce qui reste là, je les aime encore, mais c'est rien comparativement à l'amour que j'ai développé pour le Seigneur Jésus. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, j'entendais des mes chrétiens dire « Moi, j'aime mieux Christ que ma femme ». Je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien là-dedans. Il dit, comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Puis elle est là, puis c'est qu'il faut que tu l'aimes. Mais j'ai compris avec les années que cet amour-là pour le Seigneur Jésus-Christ est incomparable. On aime nos conjointes, on aime nos conjoints, on aime nos amis, mais comparativement à l'amour qu'on est censé avoir pour le Seigneur, ça devrait être considéré quasiment comme de la haine. On se comprend, là. Je ne les haïs pas, mais comparativement. Alors, si on s'imagine que c'est pas mal demandé de la part du Seigneur, posons-nous la question à savoir à quel point Jésus m'a aimé. À quel point Jésus, lui, m'a aimé. Il est mort pour moi. Même quelqu'un qu'on aime beaucoup, à moins que ce soit un conjoint ou une conjointe, mais un ami, un beau-frère, ainsi ou ça, serais-tu prête à mourir pour lui? Exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour lui, pour nous. Puis nous, on n'était pas gentils. On n'était pas aimants. Il n'est pas mort pour nous parce qu'on était faim. Il est mort pour nous parce qu'on était ses ennemis. Ça, c'est la sorte d'amour qu'il y a eu pour nous. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de la parabole du bon que Samaritain, à quel point le Samaritain avait usé d'amour pour un Juif, c'est-à-dire un ennemi. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il demande d'aimer. Puis force est d'admettre qu'on est pas mal, on a pas mal de difficultés à atteindre ce but-là, ce niveau-là. Alors, à quel point est-ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a aimé? Bien, il est mort pour moi. Alors là, on commence peut-être à comprendre la réaction de nos deux hommes dans les paraboles. Ils ont découvert quelque chose de tellement grandiose que tout le reste, ça n'en vaut plus la peine. Vous me suivez toujours?
Oui.
OK. Nos deux paraboles nous enseignent également des vérités spirituelles importantes. Je vais en souligner six, là. La première vérité, tout ce que le monde offre comme étant important et précieux n'est absolument d'aucune valeur comparativement à la connaissance de Jésus-Christ et à l'entrée dans son royaume. Il n'y a rien qui vaut ça. Il n'y a rien, rien, rien qui vaut ça. Je vois ça, là. Je vois des gens qui passent leur vie à travailler, à faire des affaires pour avoir une belle vie, puis ils ne connaissent pas Dieu. Alors, à la fin de leur vie, ce qu'ils vont découvrir, c'est que tout ce que j'ai fait, ça m'a servi à strictement rien. J'ai perdu le ciel. Alors, ces paraboles nous rappellent une fortune qu'on ne peut pas comparer et qui représente justement le ciel. Dans ce royaume-là, tout est parfait. Dans le ciel, tout est parfait, incorruptible, non souillé et éternel. Comparativement aux vies des êtres humains qui, elles, sont imparfaites, corrompues et temporelles. Alors, la valeur du ciel peut faire des habitants de la terre qui soient pauvres, misérables, malades ou pécheurs, des gens riches pour l'éternité avec comme trésor le salut, le pardon, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la vie éternelle. Il y a uniquement les insensés qui vont refuser de renoncer à tout ce qu'ils ont pour acquérir le bien le plus précieux qu'on puisse trouver, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Il faut être insensé Le jour où Christ nous a visités et qu'on a compris. Si on refuse, on est des insensés. Mais lorsqu'on accepte, on vient de voir les portes du ciel s'ouvrir pour nous et on peut y entrer. On est déjà là, assis, et on va passer l'éternité à côté de notre Seigneur et Sauveur. Qui va refuser ça? Qui va refuser ça? Un insensé. C'est comme ça que le livre des Proverbes parle des gens qui ne veulent rien savoir de Dieu. Deuxième vérité, le royaume n'est pas visible aux yeux de la chair. On l'a vu tantôt, le trésor était caché, puis la perle a dû être recherchée. Il n'y avait rien qui sautait aux yeux. Ça nous rappelle la véritable signification de l'utilisation des paraboles. Les paraboles, ça servait à révéler la vérité à celui qui la cherche et à la cacher à ceux qui n'ont aucun intérêt pour le trouver. 1 Corinthiens 2, 14, on lit « L'homme naturel, l'homme naturel, ça c'est l'homme irrégénéré ou l'homme qui n'est pas né de nouveau. » Alors cet homme-là n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dans Jean 3:3, Jésus un jour a dit à Nicodème, « Si un homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire s'il ne vient pas, s'il ne goûte pas une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. C'est clair, hein? Les gens du monde sont aveugles devant les richesses du royaume. Tous ceux qui nous entourent, il y en a beaucoup dans nos familles qui ne voient pas ça, sont aveugles à ça. Pourquoi? 2 Corinthiens 4:4 nous dit, « Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Il y a une splendeur qui brille, là. Ils ne la voient pas. Ils ne voient pas ça, eux autres. Alors, c'est évident que les gens du monde ne peuvent pas comprendre pourquoi c'est un besoin pour les chrétiens de se réunir dimanche après dimanche après dimanche. C'est un besoin viscéral qu'on a pour pouvoir apprécier l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ puis pouvoir y dire à quel point on est heureux qu'il nous ait choisis puis qu'on est heureux d'avoir tourné nos regards vers lui. On apprécie cette vérité-là puis on veut lui dire. Mais les gens du monde ne comprennent pas ça. C'est une perte que de temps. Je me souviens quand j'étais à Bécomo, il y avait une gang que d'amis, ils allaient jouer au golf donc le dimanche. Moi, j'aimais jouer au golf, mais je n'aurais jamais changé une partie de golf pour aller en échange de ne pas aller faire au culte. Eric Kellendel, ça vous dit-tu quelque chose? Chariots of Fire. C'est un coureur olympique, c'est un spécialiste dans le 100 mètres. Puis je ne me souviens pas en quelle année, là. En tout cas, c'était dans les Jeux olympiques de mes paris. Le jour de la course du 100 mètres, là où ce que Eric Lindell était le champion, il a refusé de courir cette journée-là parce que c'était un dimanche. Il préférait d'aller au culte. Alors, toute la gang, tous ceux qui étaient autour de lui, son équipe, ils capotaient bien raide. « Hey, tu vas te priver d'une médaille d'or pour aller au culte? » Alors, il a dit, « Bon, je vais courir, là, mais 400 mètres à la place. » Ce qui n'était pas sa spécialité. Il a couru 400 mètres et il a gagné la médaille d'or. Alors, celui qui veut honorer le Seigneur, souvent, le Seigneur, il fait un clin d'œil, il va l'honorer lui aussi. Puis en plus, lorsqu'il a gagné le 400 mètres, il a battu un record du monde. Je pense qu'il l'a fait en 47 secondes et des poussières. C'était tout dans l'histoire. C'était en... Je ne me souviens pas en quelle année. 1000... Je ne sais pas, en tout cas. C'est que je... Mais c'est juste pour vous dire que pour lui, il n'y avait rien de plus important que le Seigneur Jésus-Christ et d'aller l'adorer. Alors, si les gens ne comprennent pas ça, ça explique peut-être justement pourquoi ça va si mal dans le monde. Les gens ne veulent rien savoir du Seigneur, même lorsque lui-même, c'est qu'il les appelle. Regardez ce qu'on lit dans Ésaïe, chapitre 55, verset 6. C'est écrit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Troisième vérité, il faut s'emparer du royaume personnellement. Les deux paraboles parlent d'un personnage central qui trouve un objet de valeur inestimable, qui répond à ses besoins, puis il s'en empare. Il y en a un qui a pris le trésor et l'autre qui s'organise pour avoir à la perle. Alors Jésus, ici, il s'adressait à des gens qui croyaient que parce qu'ils faisaient partie de la notion d'Israël, ça leur ouvrait automatiquement les portes du ciel. Ça vous fait penser à quelque chose? Hein? Même chez les chrétiens, combien il y en a qui pensent aujourd'hui, c'est plus souvent chez les enfants de chrétiens. Mais il y en a beaucoup qui pensent que parce qu'ils viennent à l'Église, qui ont été baptisés par immersion, qui ont demandé d'être membres d'une Église locale, qui sont allés à l'école du dimanche, que tout ça, là, ça fait d'eux des chrétiens. Parce que je suis allé à l'Église, parce que je suis allé à l'école du dimanche, donc je suis un chrétien. Être chrétien, c'est d'avoir accepté Christ personnellement et c'est de croire ce qu'il dit de moi et de marcher pour lui. Et de marcher pour lui. Et même si ce qu'il me dit, ça ne me plaît pas toujours, je veux marcher pour lui. Quatrième vérité, l'entrée dans le royaume ne se fait pas de la même manière pour tout le monde. Dans les paraboles qu'on a lues, il y a des choses qui se ressemblent. Les deux hommes ont découvert quelque chose d'une grande valeur, ils comprennent son importance, puis ils sont prêts à renoncer à tout pour l'obtenir. Mais dans ces deux histoires-là, on voit une différence. Il y en a un qui tombe par hasard sur un trésor. L'autre, il cherche des perles. Alors, il y en a un que ça s'est passé par hasard. L'autre, il pioche pour découvrir que des perles. L'apôtre Paul, il ne cherchait pas à entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il pensait déjà y être. En chemin pour Damas, dans le but de persécuter des chrétiens, il rencontre Dieu. Acte 9. La femme samaritaine dans Jean 4, elle ne cherchait pas à rencontrer Christ. Elle a, pourquoi? Elle a besoin d'eau. Elle ne cherche rien, là. L'aveugle né dans Jean 9, il est entré dans le royaume sans avoir rien cherché. Le marchand de perles, lui, cherchait, puis il savait très bien ce qu'il cherchait. Il cherchait des belles perles. Il voulait quelque chose de précieux. Alors, ça ressemble un petit peu à l'histoire de Corneille dans Acte 10. Vous vous souvenez de Corneille? On lit de lui que c'était un homme pieux, qui n'était pas juif, mais qui craignait Dieu, puis qu'il priait continuellement. Il était attiré vers le royaume. Il y a l'eunuque éthiopien dans Acte 8, c'est la même chose aussi pour lui. Il est en train de lire, puis là, c'est Étienne? Étienne ou même Philippe? Philippe. Philippe qui entend la voix de l'Esprit, dit va vers lui, là, va dans le désert. Puis là, finalement, l'eunuque est en train de lire de quoi? Puis il dit, je ne comprends pas, à moins que quelqu'un m'explique. Mais il cherchait quand même le monsieur. Alors, pour certains, on dirait qu'ils sont entrés dans le royaume par accident, alors que pour d'autres, ils ont passé du temps à chercher pour le trouver. Mais, dans les deux cas, c'est toujours Dieu qui agit souverainement pour entraîner les gens à estimer Jésus-Christ comme étant le trésor le plus précieux du monde. Si vous avez découvert que le Seigneur Jésus-Christ était le trésor le plus précieux du monde, ce n'est pas votre intelligence qui vous a dit ça. C'est l'Esprit de Dieu qui vous l'a révélé et c'est lui qui vous a attiré jusqu'à lui. C'est l'œuvre complète et totale de Dieu. Vous étiez peut-être intéressé ou vous ne l'étiez pas pantoute, mais on ne vient pas au Seigneur de la même façon. Alors, c'est ça la foi qui sauve, la foi qui est attirée. La cinquième vérité, la foi qui sauve a un prix élevé. Dans les deux paraboles, Jésus n'enseigne pas que la vie éternelle peut s'acheter avec de l'argent ou à coup de bonnes œuvres. On l'a vu tantôt à Éphésiens 2, 8, par la grâce que vous êtes sauvés par la moyenne de la foi, et cela ne vient pas de vous, ce n'est point par les œuvres. Il y a beaucoup de catholiques qui en arrachent avec ce verset-là lorsqu'ils lisent puis qu'ils veulent essayer de le comprendre. Ce n'est point par les œuvres afin de ne pas s'enorgueillir. Il n'y a aucune œuvre que je peux faire pour aller au ciel. Aucune. Alors, notre salut a été d'un prix inabordable, mais Jésus l'a payé complètement. Et c'est le seul qui pouvait le faire parce qu'il fallait que le sacrifice à la croix soit parfait et il y a juste Jésus-Christ qui est parfait. Tournez dans Actes, chapitre 4, verset 11. La première fois que j'ai lu ça, ça a été un verset de base. Là. C'était la fondation de ma croyance. Quand j'ai lu ça, moi, dans Acte 4, verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ce verset-là. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a plusieurs années, ce qu'on entendait dans notre religion, c'est qu'il n'y a pas de salut en dehors de la religion. Celle dans laquelle on était. Mais la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvé. Ça, je trouve que c'est un coup de masse dans le front, ça. C'est clair, clair, clair. Alors, la foi qui sauve est un échantillon de tout ce que je suis contre tout ce que Christ est. Puis c'est de cette transaction-là que nous parlent nos deux paraboles. Un autre point important à rajouter, c'est la foi qui sauve se soumet à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sans aucune condition. Et je souligne ça, sans aucune condition. Celui qui a la foi qui sauve va se soumettre au Seigneur Jésus-Christ, à sa parole, sans mettre aucune condition. « Ouais, mais je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai déjà parlé à des gens. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne crois pas ça. Pauvre toi. Qu'est-ce que je te dis? Pauvre toi. n'est pas ce que toi tu penses. C'est ce que Dieu dit. Si tu mets des conditions, c'est fini, fini, fini. Alors, le vrai salut se trouve dans une personne, et ceux qui ont reçu ce salut-là se soumettent au Seigneur et à sa parole. Vous voulez suivre Jésus? Parfait. Très bien. Mais avez-vous bien évalué la dépense? J'espère que j'ai été clair, à savoir que pour entrer au ciel, ça ne coûte rien. Mais pour être un disciple, ça coûte tout. C'est un... Je ne dirais pas que c'est un pléonasme, là, mais c'est une... En tout cas, rien, gratuit et payant. Être disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est payant. Ça veut dire ça coûte de quoi? Ça coûte de quoi? Ça coûte ma vie. Ça coûte ma vie parce que je vais me soumettre à lui à tous les niveaux. Si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, ça, c'est pas une petite affaire, là. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire qu'il marche en fonction de ce que je lui dis, de ce que je dis dans la parole de Dieu. Alors, dans cet échange, je m'efface et je reconnais Christ comme étant le seul maître de ma vie. La foi va devenir le principe directeur de ma vie. Alors, dans nos paraboles, la perle a tellement de prix, le trésor a tellement de valeur que ça vaut la peine de renoncer à toute autre forme de trésor qu'on pourrait garder. Dernière vérité, le royaume est la source de la véritable joie. Regardez ce qui était écrit quand on a lu Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie. Alors, poussé par la joie, l'homme du trésor a vendu tout ce qu'il possédait pour acquérir le champ. Alors, ceux et celles qui ont découvert le salut sont habités par une joie qui n'a rien de commun avec la joie que le monde tente de nous donner. Et je termine avec Jean 15, le verset 9 à 11. Jean 15, verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Prions. Oui, notre Dieu et Père, on est tellement débordant de joie à savoir tout ce que tu as fait pour nous, à savoir que tu nous as révélé le ciel, tu nous as aidés, Seigneur, à progresser dans nos recherches pour certains. Pour d'autres, c'est arrivé comme ça, mais dans ta grande bonté, Seigneur, et souverainement, tu nous as attirés à toi et tu nous as sauvés. Et on veut te dire ce matin à quel point on est reconnaissant de nous avoir tant aimés, de nous avoir donné ce que tu avais de plus précieux, ton Fils bien-aimé, qui est mort à notre place parce que c'est ce que nous méritions. Alors, merci au Dieu pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu as fait. Dans le nom précieux de ton bien-aimé Fils. Amen.